Ville PM. La voix est libre.
Bonjour, Jean de la Mauricie du Centre du Québec. Merci de vous joindre à nous. La voix est libre avec Luc Lavoie. Bonjour.
Salut, Bernard.
Alors, on voulait parler un petit peu de Vladimir Poutine, puis vous poser la question d'ailleurs, est-ce que par moment, bon, Poutine, on le sait, c'est un dictateur, franchement, assez gênant par moment dans son traitement, notamment des minorités sexuelles. Mais par moment, on a quand même une certaine... Je sais pas si admiration, c'est trop fort, Luc, mais le fait que ce gars-là est au pouvoir depuis tellement d'années, puis il dégage une espèce de force, malgré tous ses excès, son côté dictatorial, totalitaire, abus... Enfin, il y a des abus, il y a des violations des droits de l'homme dans ce régime-là, mais en même temps, on est un peu par moment... moi, je dirais ça, on trouve que Poutine réussit à bien s'en sortir, que c'est un bon joueur d'échecs géostratégiques. Hein, on trouve ça.
Ce qui est le cas.
Ce qui est le cas.
Alors Poutine, un dictateur, ça, oui, c'en est un, mais pas de la façon des petits potentats, là, des espèces de petits dictateurs qu'on trouve en Amérique latine. Il correspond beaucoup à ce que l'âme russe souhaite avoir comme leader, c'est-à-dire un homme fort, un homme qui... ne se gêne pas pour prendre des décisions graves, un homme capable du pire et du meilleur, ouais. Un homme solide. Et surtout, la Russie est un pays qui a toujours été impérialiste. Toujours été impérialiste. Et lui, il a redonné aux
impérialiste
Russes...
dans le sens d'empereur.
Expansionniste.
Oui, expansionniste. Expansionniste. OK, OK. Parce que tu aurais pu dire...
Dans oui, sens, mais c'est
tsariste aussi, là, tu sais.
Être expansionniste, c'est tsariste, là, tu sais. C'est pas d'hier la veille que les Pays-Baltes étaient sous contrôle des tsars. C'est pas d'hier que la Pologne a été contrôlée par la Russie. Les Russes se voient comme une force expansionniste. Et ils avaient été évidemment humiliés à la chute du mur de Berlin. Leur empire s'est effondré.
L'empire soviétique. Ben oui,
l'empire
ben oui.
soviétique. Oui. Et là, ce diable d'homme, qui, par ailleurs, nous fait lever le cœur, fait éliminer ses ennemis, puis des journalistes opposants par des meurtres et tout. C'est un joueur d'échecs, pour reprendre ton expression géostratégique, tellement extraordinaire que c'est presque incroyable.
Alors là, les gens doivent se demander, mais pourquoi vous nous parlez de Poutine? Pourquoi vous nous parlez tout d'un coup de Poutine?
Parce que Poutine vient de lancer un débat, pas un débat. Il va y avoir un référendum sur des changements à la Constitution qui sont multiples, qui sont parfois très techniques. Mais quand tu regardes à travers les lignes, c'est que Poutine a été d'abord président. Il a été élu en 99. Puis il n'avait pas le droit d'avoir un deuxième mandat. Alors, quand il est arrivé à la fin de son premier mandat, il a pris le poste de premier ministre. Puis son premier ministre, Medvedev, est devenu président. Mais tout le monde savait que c'était Poutine qui menait. Et quand le mandat a été... Parce qu'on ne parlait pas de mandat successif, on parlait de mandat unique. Quand le mandat de Medvedev a été terminé, il est redevenu président. Et là, la prochaine échéance, c'est 2024. Alors là, il confie la nomination du président à la Douma, c'est-à-dire l'Assemblée législative. Et ça veut dire beaucoup parce que la Douma, lui, est complètement fidèle, complètement loyale. Alors ça veut dire que si sa réforme passe, il va refaire le même coup, mais d'une autre façon. Il va redevenir président parce que là, la Douma va l'élire. Puis ils lui ont posé des questions en conférence de presse, à savoir est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir deux mandats de suite dans ces conditions-là. Puis il est resté très vague sur sa réponse. Mais quand tu lis à travers les lignes, c'est ça qu'il veut. Il veut rester au pouvoir. Les Russes, moi, on me dit, mais ça, c'est dur à juger, que s'il y avait une vraie élection, comme on en vit ici, il serait élu avec une forte majorité. Les Russes l'admirent, les Russes l'aiment parce qu'il leur a redonné cette vision d'eux-mêmes, cette vision expansionniste.
Est-ce qu'on peut dire cette fierté, à ton avis?
Cette immense fierté.
D'être russe. Parce qu'ils sont tombés dans dèche quand le régime soviétique s'est effondré.
Ah, ça a été l'enfer, là. Mais c'était déjà l'enfer sous le régime soviétique, mais après ça, ça a été chaotique.
Ouais,
ça
ouais.
A été,
moi, je suis allé deux fois. Je suis allé en 90, donc peu de temps après la chute du mur de Berlin. Et je suis retourné par la suite. Non, en fait, je suis allé avant, excuse-moi. Je suis allé en 89, donc avant la chute du mur, et je suis allé après, lorsque Eltsine était au pouvoir.
Ouais, ouais.
Puis il m'a dit une affaire, entre les deux, il y avait une différence. Là. Tu voyais que c'était comme une société qui était en train de sombrer dans les faits, qui se cherchait, qui avait perdu beaucoup de... de
tous ses repères ont été perdus.
Ben,
c'est une société qui avait été embrigadée par une vision soviétique, communiste de la société. Et là, soudainement, il se retrouvait devant une espèce de vide qu'il n'avait jamais connu. Ça, l'idée des responsabilités individuelles et tout.
Voilà, voilà.
Mais ça reste un peuple dont la résilience historique est absolument incroyable. Les tsars, parfois, c'était pas tous des génies, hein. Il inclut le dernier qui a été assassiné. On
n'était
pas ici devant un grand chef d'État, là. Et pourtant, il passe à travers tout. Il continue d'être dominant en science, il continue à travers tout ça. Il continue d'être parmi les meilleurs producteurs de littérature de haut niveau au monde. Ils sont encore, évidemment, des leaders dans certains domaines de la musique. Ils ont traversé tout ce temps-là. Puis la résilience fait qu'ils sont toujours là. Et là, ils ont l'homme qu'ils veulent. Ils n'en voient pas d'autre. C'est Poutine.
Toi, tu essaies... Moi, comme je te dis, je ne suis pas allé depuis un bout. Mais ce que tu lis, ce que tu entends... C'est que s'il y avait une véritable élection démocratique, il gagnerait, Poutine.
Oui, il gagnerait assez facilement, oui.
Parce qu'avec la chute des prix du pétrole et du gaz...
Évidemment qu'ils ont moins d'argent.
Ils ont pas mal moins d'argent. Le trésor russe ne reçoit plus les sources de financement qu'il obtenait auparavant.
Mais il en reçoit moins. Il en reçoit pas zéro. Là.
Non,
ça
non,
reste
ben
un
non.
immense producteur d'énergie.
Et d'exportateur. Exportateur de gaz à l'Europe. Oui, absolument.
De gaz et de pétrole à d'autres pays aussi. Là, c'est un très, très grand producteur.
Alors là, je vais vous dire.
Alors donc, l'idée, c'est les hommes forts. Est-ce que c'est une question culturelle ou est-ce que c'est une question historique? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on aimerait ça, avoir un homme fort?
C'est ça.
Est-ce que Duplessis a été ce qu'on appelait un homme fort? Dans le temps, on l'appelait le feuf.
Moi, je pense que oui.
Moi, je pense que oui aussi.
Mais
Camillien Houde, le maire de Montréal, c'était aussi de cette vague d'hommes forts populistes, voilà.
Sauf qu'on a dit de Duplessis, de l'époque de Duplessis, qu'il y avait une forme de noirceur, sinon de grande noirceur, OK?
Oui.
Parce que, bon, il était à coquiner avec l'Église.
Plus l'histoire
avance,
plus c'est contesté.
Oui, c'est pour ça que je mets un petit peu de nuance dans ma manière de le dire. Mais, en fait, je vais vous le dire honnêtement, avant l'émission, on se parle, Luc et moi, puis on s'enligne. Puis là, j'ai dit à Luc, Luc, bon, il y a Poutine, là, on pense, là, on devine là, que ces changements-là, c'est pour lui permettre de rester au pouvoir, là, puis de tu sais, bon, longtemps. Et là, on s'est mis à réfléchir, Luc et moi, puis on s'est dit, on va demander aux auditeurs qu'est-ce qu'ils pensent de, pas tellement de Poutine, mais du style de leadership d'un Poutine. Et on veut surtout pas accréditer l'idée qu'on devrait mettre de côté le régime démocratique qu'on a pour s'en aller vers un régime à la Poutine, là. Pas du tout. Mais l'idée...
Mais fais attention, hein. La Pologne a élu démocratiquement un homme fort de ce type. La Hongrie...
C'est épouvantable, la Hongrie. Là. Oregon, on n'en parle pas beaucoup.
On n'en parle pas beaucoup.
C'est de l'extrême droite.
C'est de l'extrême droite
épouvantable. Oui,
mais
vraiment.
Mais il a été élu démocratiquement.
Mais la question qu'on voulait vous poser, puis je marche sur des œufs, vous l'aurez compris, c'est est-ce que un homme fort ou une femme forte, est-ce que par moment, vous dites, c'est ça que ça nous prendrait? Je vais le dire comme ça.
Oui, oui. Parce que, puis d'ailleurs, je m'attends, j'ai hâte d'entendre les auditeurs, mais je lis souvent que les gens souhaiteraient ça. Ils voient ceux qui aiment trouver des qualités à Trump, ils parlent de l'homme fort. C'est toujours ça qui revient à la surface. Tu sais, le Brésil a démocratiquement élu Bolsonaro.
Ben, t'es en train de nous dire, il y a un peu une mode à l'homme fort.
Ben, c'est sûr qu'il y en a une.
Ces temps-ci, là.
Et ça s'explique comment?
Trump, c'est un peu le pendant américain de Poutine, là. On n'est pas du tout dans les mêmes eaux, là. Regardez, là. Vous me comprenez, là. Commencez pas à me bombarder de textos puis me traiter de beigne parce que je fais une comparaison entre les deux. Comprenez l'esprit, l'idée d'un leader qui
se fout des institutions.
J'allais dire qu'il bouscule les institutions, qui centralise le pouvoir, qui n'hésite pas à piétiner parfois certaines institutions, qui n'hésite pas à traverser la ligne.
À humilier ses adversaires aussi.
Bon,
ça fait partie du jeu. Là.
Alors, 790-9850. On s'essaye, là. 9-8-9-8-5. Vas-y, là.
Je voulais juste ajouter une chose. Une des choses qu'a annoncé Poutine ce matin, en même temps qu'il a annoncé son changement de constitution, c'est que il va mettre en place une politique nataliste, c'est-à-dire que pour qu'il y ait plus d'enfants russes qui naissent, et il va le faire à très fort prix, parce qu'il dit le plus grand défi de notre pays, c'est le renouvellement de notre population. Alors moi, je pense, je le dis, là, parce que je vois comme un lien dans cette vision d'homme fort, puis cette crise On appelle ça la crise des migrants, mais c'est aussi la crise de la démographie négative dans les pays occidentaux.
Donc, la crise de l'identité.
Ben, de là,
à travers ça.
De là, on arrive à la question identitaire, qui est traitée de diverses façons à divers endroits, mais ça reste que s'il y a un défi mondial numéro un à l'heure actuelle, c'est la gestion de cette réalité. Et contrairement à ce qu'aime dire, je vais terminer là-dessus, Bernard, les gens, c'est pas une vision de dire « Ah, moi, je suis pour le multiculturalisme, moi, je suis contre... » Non, c'est pas ça. C'est une question factuelle. Si nos peuples occidentaux ont une démographie négative, ils vont devoir se remplacer par d'autres. Puis d'autres, ben, on verra. Tu sais, c'est, comme dirait François Legault, on verra, mais c'est inéluctable. S'il n'y avait pas 10 millions d'Arabes en France, ou plutôt 7, 7,5 millions, il y aurait un problème sérieux sur le plan économique parce que les grandes usines fermeraient.
Parce qu'il manquerait de travailleurs et de consommateurs.
Ben oui.
OK, on commence à avoir des appels. Je comprends que on est peut-être exigeant dans la question qu'on vous pose, là. C'est pas le genre d'enjeu, peut-être, auquel on réfléchit sur une base quotidienne.
Mais c'est drôle, Bernard.
Mais pensez-y, là.
Tu sais,
il y a une raison pour laquelle Trump est encore à 45% malgré toutes ses frasques puis ses niaiseries. Il est encore à 45%. Tu vois, j'ai des gens qui commencent à m'écrire, là, Luc, là. Une bonne dictature vaut mieux qu'une mauvaise démocratie. OK?
Certains diraient une tyrannie éclairée vaut mieux qu'une démocratie.
Oui, oui, voilà, exactement. J'y rêve d'avoir un leader comme ça, m'écrit un autre auditeur. Bon, il y en a qui me disent les deux sont faibles. Trump et Poutine, les deux sont faibles. Bon, il y en a un qui rigole. Il dit je souhaite avoir un régime comme la Russie avec Luc Lavoie comme président éternel.
Puis Bernard serait mon Medvedev.
Non, non, moi je serais ton Rasputin. Alors, on va aller rejoindre. C'est Karim qui nous appelle au 790-9850. Bonjour, Karim.
Oui, bonjour. Bonjour, Bernard. Bonjour, Luc.
Bonjour.
Ben, je vous remercie. C'est un sujet très, très, très intéressant. Moi, je pense qu'il y a un aspect culturel qui intervient dans le choix des leaders des pays, des nations. Quand, par exemple, vous avez évoqué respectivement tout à l'heure, tous les deux, l'Europe de l'Est, hein, et c'est à peu près le même modèle, je dirais. Il y a un dicton qui dit « le peuple a le président qui mérite » ou qui le représente, démocratiquement ou pas. C'est un peu dans cette lignée-là. Vous prenez l'exemple du Moyen-Orient. Moyen-Orient, puis tous les pays, hein, en général, il n'y a pas de démocratie. Il y a toujours du forcing, il y a du jeu de coulisses, il y a pas mal de choses, mais ça prend un leader, des fois. C'est triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut une ligne dure. Par exemple, on peut être d'accord, on peut en débattre, hein, Saddam Hussein, Kadhafi, c'était pas des L-A-7.
Oui, j'allais dire Bachar el-Assad, oui, en Syrie. Là.
Oui, ouais. Mais regardez la Syrie, l'Irak, l'avant-après. Donc maintenant, la Tunisie, pareil. Si vous demandez aux Tunisiens, Syriens, Irakiens, est-ce que vous aimez votre démocratie actuelle avec vos leaders soi-disant élus démocratiquement ou vous préférez l'ère, bien que c'était un dictateur, hein, il n'y a rien à dire. Eh bien, le peuple, c'est clair qu'ils vont choisir l'ancienne,
Bourguiba.
Comme vous l'évoquiez.
Oui, Bourguiba ou Saddam Hussein,
ou
pour beaucoup d'Irakiens.
Ou Muammar Kadhafi.
Oui, voilà, exact. Merci.
Merci à vous. Ça donnait une forme de stabilité un peu, mais bon.
Ou l'illusion.
Oui, ouais, merci Karim. On n'a pas beaucoup de temps, mais Patrick, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bon, ben écoutez, moi je trouve que ça serait beaucoup mieux... politiquement parlant, d'avoir quelqu'un de fort qui va direct aux idées, puis quitte à, comme vous disiez, piétiner un peu sur les organismes, là, au moins les choses se mettent en place rapidement. Puis, je veux dire, ici, oui, c'est une démocratie qui est comme... on s'en fâche d'en faire du tapis, c'est tellement, tellement, tellement long que finalement, on est tellement embourbé que ça serait probablement mieux, selon moi, d'avoir... quelqu'un qui dirige le pays de façon, dirons, directe.
D'une main de fer, comme on dit.
Hein? On peut ne pas être d'accord nécessairement avec tout ce qu'il fait, mais au moins, ça a le mérite d'y aller. Moi, je regarde Poutine. J'ai vu, entre autres, avant même qu'il soit président, où ce qui a été faire réouvert une usine de béton, puis qu'il a dit à un milliardaire, tu signes la convention pour que l'usine revienne, puis tu vas payer, puis c'est tout. Puis il signe, le gars, là, je veux dire...
Mais moi, je vous soumets, monsieur, moi, je vous, si vous permettez, moi, je vous soumets que au Canada, on a des institutions démocratiques très fortes, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal, et tous les rapports depuis à peu près 2 ans placent le Canada en tête pour ce qui est de la qualité de vie. Mmh. Donc, la solidité des institutions démocratiques et le respect des institutions démocratiques donnent aussi des résultats drôlement probants. Si on a la meilleure qualité de vie, il y a quelque chose qui marche là-dedans. Là.
Oui, c'est, on a l'air de l'oublier, ça.
Oui.
On a l'air d'oublier, là, qu'à un moment donné, qu'on vit dans, un, dans une démocratie exceptionnelle.
Dans, dont les institutions sont solides et généralement respectées, contrairement à ce qu'on aime penser.
Et ces institutions produisent de façon générale...
Des leaders intéressants.
Et des économies intéressantes oui. aussi dans lesquelles on peut oui. se réaliser.
Oui, oui.
Tu sais,
oui.
on peut se réaliser. D'ailleurs, il y a un sondage aujourd'hui, puis on va en parler.
Oui.
On va en parler au retour de la pause. OK, on a un lien là.
Oui.
Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui qui demande aux Canadiens... êtes-vous satisfait de l'état dans lequel se trouve le pays? Êtes-vous satisfait de la direction que prend le Canada? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes optimiste pour votre avenir à vous, votre avenir personnel? Et dans les deux cas, c'est le Québec et les Québécois qui sont les plus satisfaits et du Canada.
Et du Québec et de leur environnement.
Et de leurs possibilités
oui.
à l'intérieur du pays. Ça, c'est quand même quelque chose, là.
On a comme renversé la vapeur d'il y a une quinzaine d'années. Hein?
Exactement. Alors, après la pause, on va vous parler de ce sondage-là. C'est quand même assez étonnant. Et d'une certaine manière, Luc, on vient de clore le sujet. On a ouvert sur est-ce que vous rêvez un peu de Poutine par moment, d'un Poutine par moment, mais on conclut en disant, faites attention, soyons prudents.
Rappelons-nous ce qu'on a.
Rappelons-nous ce qu'on a, puis rappelons-nous ce qu'ils ont. Parce que, comme me l'écrivent plusieurs, un Poutine, ça fait assassiner des journalistes ouais, aussi, notamment.
Ça fait ça aussi.
Il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression
puis
dans ces régimes-là.
Ça décide de saisir un morceau de territoire du voisin, puis ça fait des choses comme ça.
Et voilà. On s'arrête au retour, on vous parle des chiffres.